Nous sommes engagés publics.
Bienvenue aux Engagés publics. Cette semaine, aux Engagés publics, on reçoit Pierre Paulus. Bonjour, Pierre.
Bonjour, Denis.
Donc, c'est ça, on reçoit Pierre Paulus. On est sur la scène fédérale cette semaine. Ça ne nous est pas arrivé souvent. Puis là, ben, je dirais, Pierre, que je suis plutôt excité. On a convenu. T'as des bons états de service. Je regardais, ben, puis c'est vraiment le cas de le dire dans ton...
Ouais, effectivement.
Pour toi, parce que t'as été dans l'armée. Ouais. Mais écoute, ton CV est impressionnant. Puis j'avais comme, c'est ça que je te disais quand t'es arrivé, j'avais comme la pulsion de te voyer. T'sais. Mais là, tu m'as mis à l'aise. Puis je suis à l'aise de te tutoyer. On a convenu qu'on allait se tutoyer.
Pas de problème, Denis. Puis en plus, t'es résident de mon comté. Donc, ça fait doublement plaisir.
Voilà, c'est ça. On est à Charlebourg. On va parler d'ailleurs de Charlebourg. C'est drôle parce que j'avais des réflexions ce matin même sur Charlebourg. Ah oui. Moi, j'ai une prétention. Je pense que Charlebourg est le grand perdant de la fusion. Mais ça, on pourra en reparler tantôt. Donc, Pierre Paulus, député de Charlebourg, Haute-Saint-Charles, c'est le nom qu'on donne à la circonscription. Lieutenant politique pour le Québec, pour le Parti conservateur. Tu présides le sous-cabinet fantôme, c'est une autre expression qu'on dit en attendant quand vous êtes dans l'opposition. Tu es responsable dans ce contexte-là de la sécurité publique, de la justice, des affaires étrangères et de la défense. Puis là, je suis allé sur le site de la les sites officiels, là, puis il y en a là, des responsabilités. Tu as plusieurs éléments, des choses plutôt conséquentes, assez sérieuses, qui touchent à l'OTAN, qui touchent aux relations internationales. Puis c'est ça qui fait que je trouve ça si intéressant en ce moment de te recevoir. J'ai pas l'habitude, c'est que c'est sérieux. Là. On est à l'international sur des sujets plutôt sérieux. Sinon, ben écoute, je vais finir un petit bout de CV. Diplômé du Collège d'État-major de Kingston, École militaire de Paris, ça m'a semblé plutôt impressionnant parce que j'ai habité à Paris, j'ai visité les installations, puis c'est ça, gaillant ça en tête, sachant que t'as fait ça, j'étais impressionné. T'as été dans les forces armées de 87 à 2009, tu pourras corriger si je me trompe, mais je pense que tu t'es rendu ton grade quand t'as quitté, t'étais lieutenant-colonel.
C'est ça, exact.
Pierre, ben merci.
Merci à toi. Encore. Merci pour l'invitation.
Peux-tu nous le démystifier, ça, lieutenant-colonel? Parce qu'on entend ça, nous autres, on était élevés avec ça, on voit ça au cinéma, ouais. Lieutenant-colonel. Mais c'est quoi exactement la responsabilité d'un lieutenant-colonel?
Bonne question. Ben, écoute, dans l'armée, il y a deux groupes, dans le fond, au niveau des grades. Il y a les sous-officiers, donc quand un soldat, on entend caporal-chef, sergent-adjudant, adjudant-maître, adjudant-chef. Donc, c'est les hommes du rang. Puis, tu as le groupe des officiers. Moi, j'ai commencé comme homme du rang, j'ai commencé comme soldat. Puis un an après, j'ai demandé d'aller avec les officiers. Donc, les officiers, sous-lieutenant, lieutenant, capitaine, major, lieutenant-colonel, après ça, colonel, puis les généraux. Ça, c'est dans le fond, ceux qui font les stratégies, qui sont les administrateurs, les gestionnaires, les penseurs au niveau militaire. Puis t'as les hommes du rang qui exécutent. Bon, en gros, moi, comme lieutenant-colonel, dans le fond, c'est que j'ai passé tous les grades. Dès le début, j'ai commencé lieutenant, capitaine, major. Et lieutenant-colonel, c'est le grade que t'as aussi quand tu peux devenir commandant d'unité. Donc, quand j'étais promu lieutenant-colonel, après avoir fait toute ma formation, tous mes autres grades, je suis devenu commandant d'unité, commandant d'un régiment, le régiment de la Chaudière, régiment de réserve qui est à Lévis, qui couvre la Beauce, Lévis.
C'est combien de monde, ça?
Ben là, actuellement, c'est des unités qui sont environ 150-200 personnes, mais j'ai commandé aussi des organisations de 700-800 personnes pour des exercices aux États-Unis, par exemple, okay. Et des déploiements pour l'Afghanistan. Donc, les unités de réserve, c'est plus petit, mais on travaille souvent en regroupement.
C'est quoi les métiers? C'est des fantassins ou
C'est un officier d'infanterie. Moi, je suis un officier d'infanterie. Donc, c'est. Initialement, quand j'avais 15 ans, j'avais un poster dans ma chambre, puis il y avait l'aviation, la marine, l'armée de terre. Puis là, moi, je voulais être pilote d'avion. Non, moi, je voulais être pilote. C'était le temps de Top Gun en 86. Je voulais être dans l'aviation. Finalement, on m'a dit que mes yeux étaient pas assez bons. Puis là, après ça, la marine n'a pas vraiment à Québec. Fait que je me suis ramassé par hasard dans l'infanterie. Puis finalement, j'ai fait ma carrière là-dedans avec le régiment. J'étais en mission avec le Royal 22e Régiment. J'ai fait différentes opérations. Mais je suis toujours resté réserviste, mais j'étais temps plein au début. Par la suite, j'ai commencé en affaires avec le magazine Prestige. Mais il reste que le officier d'infanterie, c'est vraiment dans le bois, les packs-sacs, les armes.
As-tu encore des genoux?
J'ai mal au dos.
T'es pas le premier premier membre des forces ou ex-membre des forces qu'on reçoit. On a eu en entrevue Yann Lafrenière. D'ailleurs, vous pouvez aller
que je connais très bien.
Voir l'entrevue avec Yann pour ceux qui sont curieux. C'était une de mes très, très bonnes entrevues. On a beaucoup de respect pour les gens qui ont servi. Merci, merci beaucoup, Pierre, pour cet aspect-là. Donc, ben écoute, c'est une partie de toi. Hein, je le dis souvent, les engagés publics, on veut connaître la personne derrière le politicien. On veut apprendre à vous connaître, vous, nos élus, nous autres, on est là pour ça, valoriser l'engagement politique. Mais là, maintenant, c'est ça, je lisais que tu viens de Granby, mais c'est qui, Pierre Paulus, en dehors de la politique? Qu'est-ce quoi qui te fait triper?
Ah, bonne question. Écoute, la politique, c'est arrivé sur le tard, premièrement. Ben oui, j'ai étudié 2015. En sciences politiques, j'ai étudié en sciences po à l'Université Laval, mais c'était pas à ce moment-là, c'était bon, j'étais militaire, j'étais à l'université, j'avais pas vraiment là de à part, tu sais, je voulais être pilote, j'ai dit tantôt, puis je pouvais pas. Donc j'étais un petit peu en recherche de ce que je voulais faire dans la vie. Le militaire était vraiment une très bonne école pour moi de formation, puis l'université sciences po. Bon, après ça, j'ai continué comme militaire et en 94-95, j'ai parti un magazine avec mon père Denis, qui avait une expérience chez Québecor à l'époque, et ça, Prestige. Le magazine Prestige que j'ai revendu il y a un an et demi, mais que ça fait 27 ans que ça existe.
Ah, c'est plus à toi, Prestige?
Non, je l'ai vendu l'année passée, Puis, de toute façon, depuis 8 ans, j'avais délégué la responsabilité à mon épouse. Puis, à un moment donné, il a dit, OK, c'est pas moi la femme d'affaires, c'était toi, là. Donc c'est ça, là, ce qui m'a amené en politique, dans le fond, c'est un mélange des deux. Carrière que j'ai eue, le côté militaire où l'impact des décisions politiques fédérales ont les décisions ont un impact majeur sur la vie d'un militaire. Puis moi, j'ai vécu les années de noirceur libérale à l'époque, là, qu'on riait des camions qui montaient en Ricatte, là, parce qu'ils tombent en panne.
Je me souviens, j'écoutais André Arthur.
C'est moi, ça, André Arthur riait de ça avec raison. Là, à un moment donné, on était toujours en attente. Puis quand j'étais commandant d'unité, 2003-2004, là, on était dans une période que la décision du ministre est importante. Fait que ça, c'est l'impact de la politique sur moi, c'était sur mon travail.
Mais l'armée, c'est une forme d'engagement de toute façon.
Ben, c'est ça, tu portes le drapeau, tu portes l'uniforme, tu représentes ton pays et le gouvernement est ton boss. Là. Fait qu'à un moment donné, dans ces périodes-là, tu es loyal à ton gouvernement, mais maudit que tu aimerais ça changer les choses. Fait que ça, c'est ce qui me travaillait. Mais tu sais, puis après ça, du côté magazine Prestige, les autres entreprises que j'avais beaucoup de rencontres. Des gens d'affaires, des politiciens, municipaux, provinciaux, fédéraux. Donc, c'est cet environnement-là qu'à un moment donné, je finissais mon commandement en 2007. J'ai rencontré Stephen Blaney, qui était à l'époque député de Lévis-Bellechasse, conservateur. Puis là, j'ai juste ouvert une petite porte en disant ça m'intéresse. Il dit ça t'intéresse-tu? Puis là, rappelons-nous qu'en 2006, le gouvernement conservateur qui avait gagné, Stephen Harper. Lorsque Stephen Blaney était un député de Lévis, il y avait un an de service.
Il y avait combien de députés conservateurs au Québec?
En 2006, il y en a eu 10 qui ont été élus.
Au Québec?
Oui, au Québec. Okay. Puis, fait que c'est ça, j'ai commencé à avoir un peu d'intérêt pour la politique. Puis Stephen Harper, moi, comme militaire, Monsieur Harper, quand il est arrivé, ça représentait l'image que je m'attendais d'un premier ministre d'un gouvernement face à une institution militaire. Ça, c'était un changement aussi, l'attitude, la façon d'approcher le. Puis on était en Afghanistan, souvenons-nous, là, puis on avait beaucoup de défis. Fait que le gouvernement conservateur est arrivé vraiment, puis a ramené la fierté du service. Ça, c'est important.
Toi, t'es arrivé quand même en politique en 2015.
J'ai été élu en 2015, mais j'ai commencé à m'intéresser à la politique activement 2007-2008. En 2008, j'ai décidé de devenir candidat. Moi, j'étais candidat à l'élection de 2011 dans Louis Hébert. Parce qu'à l'époque, ici, il y avait un député conservateur. Donc, je me suis présenté dans Louis Hébert. Donc, j'ai sorti de l'armée en 2009. Je me suis activement organisé pour une élection, l'élection de 2011, que j'ai pas gagnée. Il y a eu la vague orange à l'époque, ceux qui s'en souviennent, avec M. Jack Layton.
D'ailleurs, t'as remplacé un NPD, toi, ici à Charlebourg.
Ah, ici, ouais. Mais en 2011, c'est ça, j'ai pas gagné l'élection. Puis, à ce moment-là, c'est pour ça que mon implication politique à Québec, entre 2011 et 2015, il y avait seulement des députés NPD dans la région de Québec. Et on était au gouvernement, le gouvernement conservateur, majoritaire. Mais il y avait 5 députés dans tout le Québec. Puis, dans la région de Québec, il y avait personne. Donc, j'étais le point de contact, le point de chute du gouvernement pour des relations dans la région de Québec. Donc, moi, j'étais pas élu, j'étais tout simplement...
Un peu comme le principe qu'on voit maintenant avec des non-élus comme Mégane Perry-Melançon au Parti québécois,
ça pourrait être ça, là.
Qui est un peu ce rôle-là de porte-parole en attendant que...
Porte-parole qui était non officiel à ce moment-là, parce c'est que je continue de faire ma business, mes affaires, mais j'étais le point. Fait que ça, mon implication a continué là, et par la suite, 2015, la piqûre est encore là, j'ai dit, là, je retourne, mais là, je voulais être dans mon comté, Charlebourg, Saint-Charles, puis...
Mais écoute, ça m'amène à te poser la question sur tes études. T'as des, bon, là, tu sais, j'ai fait état de tes études dans un contexte militaire, dans des collèges militaires, puis tout ça, mais effectivement, tu l'as mentionné tantôt, puis ça m'a surpris. Je m'attendais pas nécessairement à ça. Études en sciences politiques à l'Université Laval.
Ah, c'est ça. Ben,
t'étais déjà prédestiné. Là. T'avais déjà un goût de ça.
Écoute, à l'époque, là, j'étais après le cégep, je regardais les programmes, puis il y avait le droit, la science politique. Science politique, t'as comme un peu un deuxième choix. Puis finalement, j'avais pas passé au premier tour pour le droit. Fait que j'avais rentré en Sciences Po, puis tu sais, j'étais là, t'as 19 ans, tu sais pas trop ce que tu veux faire. Fait que finalement, j'entrais là-dedans, mais je trouvais ça intéressant. Bon, j'ai appris beaucoup de choses. Il y avait des professeurs vraiment intéressants. Fait que j'ai quand même appris la théorie de la politique de la façon universitaire, mais comme je te dis, après ça, j'étais pleinement dans le militaire, puis après ça, en affaires. Mais il reste que tout ce que j'ai appris à l'époque à l'université me sert encore aujourd'hui. Il y a par contre, des fois, il y a des jeunes universitaires qui font Sciences Po, je leur dis, la théorie, c'est beau, là, mais dans la vraie vie, là, j'ai des gens qui ont travaillé pour moi qui disent, oh, OK, c'est pas comme à l'école tout à fait, là. Mais il reste que les bases sont là quand même, puis les grands principes, surtout. Là, et ce que, on parlait d'international, on va en reparler peut-être un peu plus tard, oui. Les cours avec Jean-Pierre Derianic à Laval, le livre L'État du monde arrive au début de l'année, il dit ça, apprenez ça par cœur. De tout ça, t'as 19 ans, tu regardes ça.
Il était sérieux?
Oh, il était sérieux, là. Puis là, tu regardes ça, chaque pays, les religions, l'économie, là,
mais comme futur officier, c'était un papier exercice.
Ben, c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, quand t'es jeune, tu regardes ça, tu sais quoi ça. Après ça, tu t'y intéresses. Puis aujourd'hui, 20 ans, 30 ans plus tard, ben, tu dis, crème, ça avait du sens d'apprendre ça parce que ça fait partie du quotidien.
Mais là, ça n'a pas répondu quand même à ma question. Je voulais, avant qu'on poursuive, puis moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Moi, je veux connaître, on va parler de politique, on va parler de ton parcours politique. Mais c'est quoi qui te fait triper en dehors de tout ça? Là? T'es-tu un pêcheur? Collectionnes-tu les vieilles voitures? Comme
ah, mais parce que tu ne veux pas poser la question?
Ben, je t'ai demandé, c'est quoi qui te fait triper?
Qu'est-ce qui te fait triper dans la vie?
En dehors de la politique, puis de la tout le volet de la vie militaire, ben, parce que je sais que ça
moi, ce qui est intéressant de ma vie, je trouve, quand on regarde justement mon cheminement, c'est d'avoir fait un volet, le volet militaire qui m'a amené énormément de dépassement de soi là, par rapport aux entraînements, aux capacités que j'avais besoin d'avoir pour performer aussi, puis remonter en grade, les missions que j'ai faites, les défis, tout ça. Ça, c'était un volet qui était trippant pour moi. Le côté affaires, c'était
nice.
La business, c'est tous les jours, il faut que tu sois capable de continuer d'avancer puis de faire un magazine dans un... Ça, c'était des défis parce que tout le monde disait ça durera pas, hein, ça va mourir. Ça fait 27 ans que ça existe. Là. Fait que ça, c'est ce qui me fait triper, c'est de réussir comme ça quand tu as des objectifs. Ça, c'est des choses. Des passions, des loisirs, je n'ai pas tant. J'essaie de m'entraîner, je fais du spinning, je fais du scalping, mais je suis pas... Ça, c'est un élément que je peux dire qui est triste dans ma vie. J'ai pas une passion genre de faire des collections de timbres ou de faire des amateurs là, comme toi. Je vois que t'as des machines
des
à balles, tu tripes sur les pinballs puis tout ça. Je suis plate pour ça.
Ouais. Parce... Je te comprends, mais c'est paradoxal, là, j'ai tout ça, ces enfants-là, mais c'est plus par nostalgie. Je suis pas vraiment là-dedans. Mais je comprends bien ton le volet sur l'entrepreneuriat. Je partage un peu ça, c'est que le monde me... Tu sais, je travaille tout le temps. Le monde me demande des fois, écoute, donc tu te reposes jamais, mais c'est parce que moi, quand je ne travaille pas, c'est ça.
C'est ça.
Je veux dire, en réalité, je ne travaille jamais.
Ouais. Des fois, moi, tu sais, j'étais avec mon travail actuellement, puis j'arrive de Montréal, je repars tout le temps, à gauche, pas à droite, puis tu sais, il y en a qui se disent, comment tu fais?
Ah, le voyagement, ça doit être tough, par exemple.
Ouais, mais moi, des fois, je dis, quand je suis dans l'auto le vendredi, mettons, je pars d'Ottawa à midi, puis j'arrive à Québec à 5 heures, ben, je dis, moi, pendant que j'étais sur la route, 5 heures de temps, j'étais sur le téléphone, puis je payais pour faire ça. Moi, je le vois pas. Mm-hmm. Ça dépend comment qu'on mm-hmm. voit ça, mais c'est sûr que ça vient dur physiquement, mais mentalement, j'aime ce que je fais. Donc, je vois pas ça, je suis pas fatigué de ça.
Ça m'amène à ton rôle de comment on dit ça, lieutenant du Québec.
Lieutenant
de
politique.
Ça te suit, ce terme-là,
ben,
ce titre-là, fonction, lieutenant, ouais.
Ouais,
c'est ça. Mais peux-tu nous l'expliquer, nous le démystifier, ce rôle-là?
Le lieutenant politique, premièrement, on voit ça au gouvernement, comme actuellement le gouvernement libéral, c'est Pablo Rodriguez. Pablo est ministre des Transports, mais est également lieutenant politique pour le Québec, du gouvernement. Okay? Dans l'opposition, ben, c'est la même chose au Québec, puis c'est juste au Québec, hein. Il n'y en a pas dans d'autres provinces. Il y a un lieutenant politique pour le Québec.
Okay.
L'objectif premier, quand tu es dans un gouvernement, c'est vraiment de faire la relation entre le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec. Pourquoi qu'il n'y en a pas ailleurs? Parce que le principe pourrait s'appliquer dans n'importe quelle autre province, mais c'est notre particularité québécoise là, qui fait qu'on a des relations. Donc, le lieutenant est là pour ça. Dans un cas de parti d'opposition comme nous actuellement, c'est de un, de représenter le chef, mais deux aussi, c'est de faire comme là, je suis actuellement en train de faire une tournée, la tournée du gros bon sens. Puis là, je fais le tour de différentes régions où on n'a pas de député pour aller consulter, voir qu'est-ce qui se passe, puis comprendre les enjeux pour être capable, moi, comme lieutenant politique, d'avoir la réalité complète du Québec avec ses différentes réalités économiques, mais aussi les réalités sociales qui sont différentes pour pouvoir donner des conseils à Pierre Poilievre pour dire, regarde au Québec, là, il se passe ça, parce que ça sera toujours différent d'ailleurs.
Ben oui, c'est ça.
C'est correct. C'est de même, c'est pour ça qu'il y a un lieutenant.
Puis je suis curieux de t'entendre sur cette réalité-là. Tantôt, je t'ai dit un peu quelle était, où est-ce que moi, je logeais au point de vue du fédéralisme. Je suis pas un grand fan. Mais là, je t'adresse le sujet, puis je suis curieux, comment le Parti conservateur, puis de part ta job, t'es comme le meilleur à qui je peux poser la question pour y répondre. En tout cas, au Parti conservateur, comment vous allez faire pour concilier ces deux visions-là? Parce qu'il y en a deux visions. Es-tu d'accord avec moi?
Il y a plus que deux visions. Il y a énormément de visions. Puis c'est ça qui m'a fasciné en 2015 quand j'étais arrivé à Ottawa. Quand j'étais élu, je suis rentré là. Puis là, j'avais mes collègues de partout au pays. Puis la première chose, je me suis dit, OK, il y a la réalité linguistique, évidemment, français, anglais. Ça, c'est ce qui est plus déterminant dans notre relation avec le reste du Canada, Québec, reste du Canada. Mais la réalité de chacune des provinces, chacune des réalités, les gens de Colombie-Britannique, ils ont des enjeux, des réalités bien différentes de Terre-Neuve, puis de l'Ontario, puis même en Ontario, le nord de l'Ontario, c'est différent de Toronto. Fait que, tu sais, c'est un melting pot d'enjeux, puis de réalités, que là, je me suis dit, OK, fait que le Québec, là-dedans, on a notre spécificité, la nation québécoise qu'on a reconnue, puis c'est pas pour rien, puis c'est vrai, puis on est comme on est. Puis ça, moi, comme conservateur au Québec, c'est une réalité qui est là, puis que les autres collègues d'ailleurs au Canada comprennent. Puis s'ils ne comprennent pas, je leur fais comprendre. Parce que on est différent, mais la différence avec les souverainistes, c'est qu'on se dit, OK, dans tout ce melting pot-là, on est là, on doit être encore meilleur, on doit être plus fort, on fait partie de cette équipe-là comme pays au niveau international. Mais oui, il y a une réalité différente d'ailleurs. Puis c'est la langue qui est le gros facteur parce qu'il y a tellement de cultures différentes, mais au bout de la ligne, ils parlent tout en anglais. Puis nous autres, on parle anglais tous les jours, on finit toujours par avoir notre accent québécois, puis ça va toujours rester de même. Mais au-delà de la langue, je pense qu'il faut se mettre en tête aussi que notre... regardez, au Québec, là, le monde du Lac-Saint-Jean, ils pensent pas comme les Beaucerons puis les Gaspésiens. Fait que, tu sais, même au Québec, quand on regarde ça, on a des réalités.
Ouais, mais tu sais, il y a des grands dossiers, puis vous les faites ramener à chaque élection. Puis on dirait qu'à chaque fois, vous êtes comme. Vous continuez. J'ai hâte de voir comment vous allez.
Tu vas me parler de l'avortement, par exemple.
L'avortement. Okay. Après ça, c'est quoi? Il y en a une couple de même.
Pétrole, l'avortement.
À chaque fois que vous le faites sortir.
Les armes.
Mais
là, je peux te dire que je t'en parle proactivement. Je peux te faire la liste de tout ce que le monde parle tout le temps, puis qu'on se fait mettre d'en face, puis finalement, c'est des spins politiques. Là. À chaque fois qu'on a des questions, à Ottawa, par exemple, pour les libéraux, on y rentre dedans. Pablo Rodriguez se lève, regardez les conservateurs. C'est des spins politiques. Tu sais, l'avortement, oui, dans mes collègues anglophones ou d'ailleurs, il y en a qui aimeraient ça que les règles changent parce qu'ils trouvent que c'est pas correct. On leur dit, OK, t'as le droit d'y penser, mais il se passera rien. Parce que notre chef est clair, Pierre Boyer est clair, on touche pas.
Il n'y a pas d'ambiguïté.
On touche pas.
C'est ça qu'on va vous accuser, là.
Mais il n'y en a pas d'ambiguïté. Mais moi, ce que je dis, oui, ça se peut qu'une de mes collègues de la Saskatchewan en parle, puis qu'elle aimerait ça en parler encore parce qu'elle, ça y tient à cœur. Mais nous autres, on dit, t'as le droit de parler, t'as une liberté de parole dans ce pays-là. Mais politiquement, il n'y a pas question, on ne légiférera pas là-dessus. Bon, mais ça, c'est sûr que les gens, ils se font tout le temps, tout le monde ramène ça, regardez les conservateurs, tout ce qu'ils veulent, là, c'est de ramener ça comme aux États-Unis puis d'empêcher l'avortement au pays, c'est n'importe quoi.
L'autre question que préparez-vous, puis je suis curieux de voir que ça va être quoi vos réponses. Alors ça, c'est Radio-Canada.
Hey.
Radio-Canada, CBC, premièrement, y a-t-il une différence?
Absolument.
Ah, c'est ça, là.
Ouais. C'est sûr et certain. CBC, 3 à 4 % de code d'écoute au pays, c'est... n'importe quoi. Il y a Radio-Canada, c'est différent. Radio-Canada, les cartes d'écoute au Québec sont très importantes. Et surtout, Radio-Canada, en tant que francophone, justement, là, c'est d'être capable d'être partout au Canada pour la francophonie canadienne. Parce qu'il y a énormément de francophones hors Québec. Là, il y a plus qu'un million de francophones hors Québec actuellement. Puis ça continue de grandir. Il faut qu'il y ait des communications pour ces gens-là, au minimum. Puis au Québec, en plus, ben nous, on a TVA, Radio-Canada. À part ça, les gens s'informent plus difficilement avec les médias anglophones, ce qui est totalement différent d'ailleurs au Canada, qui eux vont consulter les médias américains ou d'autres, CTV, whatever. Donc CBC, notre parti dit on va mettre, on dit défendre CBC, c'est sûr qu'on veut mettre la hache là-dedans.
Ben oui, on entend ça, hein.
Parce qu'il y a de l'abus, il y a carrément de l'abus.
Donc attends un peu, tu dis qu'on va... On va mettre la hache là-dedans, carrément, là, aucune menace.
Oui,
vous ne devez pas vous faire d'amis, ben
non, c'est sûr. Puis, sauf qu'à un moment donné, on est là dans l'intérêt des citoyens. Il y a 1,2 milliard de dollars, puis il en manque encore, puis ils en veulent encore plus. Puis en plus, ils vendent de la publicité, ils compétitionnent le privé, ils vendent de la pub, ils ont des fonds publics. Dans un bureau, on voit une équipe, mettons, ils sont 10 personnes pour gérer une émission de radio, puis les radios privées sont 2-3, puis ils se débrouillent. Là.
Et moi, je suis seul.
Ben, c'est ça. Non, mais tu sais, tu fais la technique, les caméras, les micros. Radio-Canada sont 10 faire la même chose. Non, honnêtement, Radio-Canada, je le dis, on en a besoin. Est-ce qu'on devrait revoir le mandat pour peut-être au niveau de la publicité? Il y a des choses à revoir là-dedans, là, parce qu'ils sont financés par le public. Puis, l'information, c'est hyper important. Les communications, comme je disais, partout au pays. CBC, il y a un volet qu'on doit garder. C'est pour la sécurité nationale. Puis ça se parle jamais. Mais il faut être capable d'avoir les ondes de CBC okay, pour ouais. rejoindre les gens des catastrophes et tout ça. Là. Il y a un volet comme ça.
Ou t'as la radio-télévision.
Tout le reste de ce qu'ils font, aux autres, là, je veux dire, c'est... Non.
J'étais curieux, Pierre. Je...
Toi, je te réponds, hein?
Tu me réponds pas pire, je te dirais. Oh, je suis content, ça
on
fait...
On n'a pas de complexe.
Puis, sais-tu quoi, je pense que c'est un secret, puis je vais faire, tu vas trouver ça drôle, je vais faire un pont avec le Parti québécois en ce moment, okay. Le succès du Parti québécois actuellement, je sais pas, ça va peut-être te mettre mal à l'aise, mais là, parce que je sais que t'es pas souverainiste, mais je pense que c'est un secret, cette façon-là de, premièrement, d'être cohérent, un secret, on s'entend que c'est pas un gros secret, Gabin, cohérence... S'assumer et être cohérent, on dirait que c'est rendu des valeurs rares en politique.
Effectivement.
Est-ce que c'est quelque chose que vous avez mis à votre, plan stratégique?
Ben moi, ce qui me définit en plus comme les gens, puis les citoyens ici, là, je veux dire, moi, là, je suis un gars qui est réputé pour être intègre. Puis, regarde, si tu veux leur juste, tu vas l'avoir. C'est comme ça, comme ça. Puis, à un moment donné, se promener puis faire des simagrées, là, c'est pas mon style, ça l'a jamais été. Ça, c'est mon côté militaire. Justement, des fois, ils me disent, ton côté militaire qui ressort.
T'es carré.
Ben, ouais, carré. Mais à un moment donné, les gens veulent avoir leur juste, puis c'est quoi qu'il y en ait. On est tout d'accord, on est oui ou non. Puis, à un moment, il faut que ça avance.
On sait pourquoi on vote toujours?
Ben, c'est ça. Puis, moi, je pense que l'idéal, la population, là, ce qui sont tannés, c'est justement les fameuses promesses électorales, les. Faire promettre des choses que là, tu fais rêver les gens, finalement, sachant très bien que ça ne pourra pas se faire. Puis là, les gens sont désabusés puis sont écœurés. Puis avec raison. Fait que moi, je suis vraiment dans une approche. Puis je suis content de Pierre Poilievre parce qu'il est dans cette approche-là. Tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas, mais on va livrer. Puis Harper, tant de même. Harper, quand il a promis de quoi, il a tout le temps fait. Puis s'il ne pouvait pas le faire ou il ne voulait pas le faire, il le disait. Fait que ça, c'est que quand même pour des valeurs, des choses qui me rejoignent, que c'est des gens comme ça. Là. Fait que dans cette lignée-là.
Tu parles du prédécesseur de Poilievre, mais tu n'étais pas lieutenant à cette époque-là. Hein?
J'ai parlé de M. Harper, mais il y a eu Andrew Scheer.
Oui, oui, c'est vrai.
Et Aaron O'Toole.
Oui. Hey, Colin, hein?
Ouais.
Mais c'est une forte personnalité, M. Harper, parce que vois-tu, moi, les deux autres, je les avais comme déjà oubliés. Ouais. Mais donc, merci de me rappeler à l'ordre par rapport à ça. Mais donc, toi, t'es lieutenant, donc c'était certainement pas avec Harper, hein, ça c'est sûr. Mais c'est-tu M. Poilievre? Ma question, c'est celle-là. Est-ce que c'est Pierre Poilievre qui t'a nommé lieutenant du Québec? OK.
Oui.
OK, c'est bon. Fait que toi, c'est avant ça, c'était qui, lieutenant du Québec, donc? C'était...
Il y a eu, dans le temps des Aaron O'Toole, c'était Richard Martel, qui est député de Saguenay. Puis après ça, le plus longtemps, c'était Alain Reyes, qui était le lieutenant d'Indo Scheer.
J'ai eu mes billets de saison au Rempart dans la grosse période.
Ah, qui était où, coach des Saguenay.
Il paye pas le prix!
C'est ça.
Je vais m'en souvenir toute ma vie. Ça a été le plus beau hockey que j'ai jamais vu de toute... puis genre, je suis pas jeune, moi, là, mais ça, je pense que mes années d'hockey, j'ai trippé le plus dans ma vie. C'était malade. C'est le fun de recevoir un jour Richard Martel ici.
Ah oui.
D'ailleurs, Pierre Poilievre, on aimerait ça aussi l'avoir. Je te faisais la blague tantôt. Ouais. Je ferais pas le. Je disais que j'aimerais ça que Pierre Poilievre vienne manger une pomme ici avec moi, qui me regarde. Puis, sa blague, je partage pas votre vision au point de vue, la vision fédérale. Je suis pas, comme je te disais, je suis pas un grand fan, mais je suis très curieux du personnage. Vraiment, là, je suis curieux, je le vois aller, puis c'est intéressant.
Ah, et Pierre Poilievre, il est pas dans le moule habituel. Là. Puis il est vraiment solide. Hier, j'étais avec le Montréal, il y avait 1300 personnes, une foule. Là, puis
hey, j'ai vu ça.
Il passait le message, puis c'était incroyable. Parce que là, il lit pas de discours, là, il n'y a pas de notes. Là, il y a juste 3-4 petites notes sur un bout de papier. Là, puis il parle pendant 40 minutes puis sur des sujets. Là, je veux dire, oui, il y a des rallyes, des fois, des rassemblements qu'on fait très partisans. Mais hier, là, je veux dire, on s'adressait à la communauté juive de Montréal, là, puis c'était sérieux.
Puis, en fait,
il leur parlait, puis c'est ça, c'était un... Il racontait là, l'histoire sur Israël, les relations, puis il a même parlé des musulmans, des palestiniens, puis il a expliqué aussi que ces gens-là sont pris dans des situations qu'ils n'ont pas demandé, puis qu'il faut... Pierre, ce qu'il disait aussi, il dit, je vous parle aujourd'hui dans une synagogue, mais je vais aller parler dans une mosquée, puis je vais dire le même message. Mm-hmm. Tu sais, là, il n'y a pas de... Il est transparent, là. Vraiment transparent.
Est-ce que Pierre va dire les mêmes choses au Québec en français?
Il l'a dit hier aussi, puis ça fait partie des problèmes qu'on a déjà eus à l'époque. Tu plains un électorat, puis quand tu arrives au Québec pour pas avoir de problème, tu dis d'autres choses. Puis ça, Pierre l'a même dit hier dans son discours, que je sois n'importe où au Canada, au Québec, je vais dire la même affaire.
Fait que vous l'avez, pis, ce constat-là, vous l'avez assumé,
absolument,
l'avez intégré. Là.
Absolument, puis ça va être comme ça la prochaine campagne électorale. Il n'y aura pas de double message.
En tout cas, passez le message, Marie-Lou, si vous êtes en mesure de que le message se rende, moi, j'aimerais bien avoir Pierre Poilievre dans mon sous-sol. C'est bien pour dire, hein, j'en reviens pas, que vous acceptiez. Merci encore une fois, Pierre, de venir comme ça dans mon sous-sol, venir faire une entrevue, prendre le temps. On avait déjà 25 minutes, de fait. Je te remercie pour ça, au même titre que je remercie tous les autres politiciens qui viennent nous voir. Donc, on a parlé de tes débuts en politique, on a parlé j'ai bien compris, tu sais, je reviendrai pas sur pourquoi le Parti conservateur, je pense que je comprends bien le point, tu me disais que c'était relié beaucoup à ton cheminement, à ton parcours dans les forces.
Ben, c'est trois volets, moi, hein. C'est la mise en... va me chercher, sécurité nationale, défense, puis c'est pour ça que je suis tout le temps là-dedans, puis ça fait partie de ma vie, puis au niveau politique, ça continue. Au niveau économique, stabilité économique, prospérité, faire attention aux fonds publics, fait que ça, c'est deux éléments que dans le temps de Stephen Harper, ça, c'était clair, ça venait me chercher. Les libéraux, en passant, ont déjà été comme ça, là. Dans le temps de Paul Martin, puis ça, ils faisaient attention. Au niveau économique, par contre, la défense, comme j'ai dit au début de l'entrevue, Chrétien nous a scrappé ça. Là. Mais les conservateurs, à ces deux niveaux-là, et en 2006, que le Québec était reconnu comme nation, moi, comme nationaliste québécois, fier québécois, j'ai un parti qui représente les Canadiens avec nos réalités. Puis moi, ben, là-dedans, je me retrouve avec la défense, la sécurité, l'économie, puis un parti qui n'empiète pas dans les champs de compétences provinciaux, des provinces, qui respecte le Québec. Qu'est-ce que tu veux demander de plus?
Parce que là, ça va être ça, votre adversaire au Québec, ça va être le Bloc.
Ben oui, ben le bloc est là. Oublions pas que le Bloc a commencé, c'était des conservateurs avec Lucien Bouchard que j'ai vu samedi dernier, justement, il y a quelques semaines au funérail de M. Mulroney. On a le Bloc est là, évidemment, avec qui est un parti qui représente les gars comme toi, là, je veux dire, les souverainistes qui disent, bon, ben moi, quand je vote au fédéral, je vote pour le Bloc parce que je suis souverainiste, puis that's it. C'est correct.
Je pense que c'est le meilleur parti pour défendre les intérêts du Québec.
Bon, mais c'est là qu'on se trompe.
Vas-y.
C'est là qu'on c'est la spin depuis 30 ans du Bloc. On est là, puis là, actuellement, ils disent, ben si c'est bon pour le Québec, on est là. Si c'est pas bon pour le Québec, on n'est pas là. OK. Mais des fois, c'est parce que il y a des choses qu'on fait au niveau fédéral qui ont des enjeux nationaux. Puis, ben, exemple, un vote qu'il y a eu dernièrement. Il y a eu une motion sur la taxe carbone. D'autres, on constate qu'au niveau national, les provinces sont impactées.
Il y a l'air d'avoir des
imbroglios
sur la compréhension.
Ben oui, mais c'est parce que là, il existe une bourse du carbone au Québec depuis 2013. Par ailleurs, au Canada, il y a une taxe fédérale depuis une couple d'années qui fait mal au monde. Puis ça coûte cher, là. Puis là, les premiers ministres demandent à Trudeau, arrête d'augmenter ça, ça n'a plus de sens. Puis là, le Bloc, dans une motion qui nous, on demandait d'arrêter l'augmentation de la taxe carbone. Puis en même temps, c'est un vote de non-confiance envers le gouvernement de Justin Trudeau, parce qu'on dit assez, là. Le Bloc a voté contre notre motion, parce qu'ils disent que l'attaque carbone ne s'applique pas au Québec. Mais l'élément le plus important, c'était le vote de non-confiance qui était clair dans cette motion-là. Pourquoi le Bloc? Tu travailles pas. Premièrement, la taxe carbone fait mal aux autres Canadiens. Ça ne te tente pas de donner un break à nos voisins, là. C'est de dire on va supporter la motion des conservateurs parce qu'effectivement, ça fait mal. Puis deuxièmement, ben, on est tanné de Justin Trudeau, nous autres aussi, hein, on va dire bye-bye. Ben, ils n'ont pas supporté ça. Puis à un moment donné, ils se sont fait blâmer aussi. Il y a des gens qui ont dit, je comprends pas. Tu sais, j'ai même vu des grands souverainistes que j'ai croisés dernièrement, là, québécois, que je nommerais pas, là, mais qui m'ont dit, on comprend pas. Fait que, tu sais, des fois, le bloc, c'est pas toujours vrai que c'est dans l'intérêt suprême du Québec. Des fois, c'est que des intérêts nationaux qui pourraient collaborer parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde. Ou comme la loi C5, une loi qui permet maintenant à des criminels de purger leur peine à la maison. Et on supportait ça, le bloc. Et où l'intérêt des Québécois là-dedans? Tu sais, ces transferts de Luco Magnotta, on voulait aller plus loin. Il est rendu dans une prison de sécurité moyenne. Tous les conservateurs, ouais, on mettait la pression. Le bloc a décidé de couper ça. Puis qu'on... Non, finalement, on s'en mêle pas.
On va avoir Alain Terrien bientôt qui va nous passer une voix.
Gentil Alain.
Je prends des notes puis je vais lui demander de te répondre carrément parce que c'est des dossiers que je connais pas. Mais moi, ce que je me dis, c'est...
Ben, vois-tu, tu le dis, tu connais pas. Parce que ça, c'est l'autre problème qu'on a.
T'as raison.
Parce qu'à Ottawa... Il y a la couverture médiatique d'Ottawa.
C'est dingue, moi, là.
Je dis tout le temps aux gens, t'as même pas 5% de ce qui se passe à Ottawa qui est rapporté dans les médias. Parce qu'au Québec, on est beaucoup orienté la politique québécoise, l'Assemblée nationale. Puis les affaires d'Ottawa, ben, c'est une nouvelle sur un sujet X par jour. Là. Mais dans l'ensemble de l'œuvre, on l'a pas le topo. Là.
C'est incroyable, ça. J'ai reçu Yves-François Blanchette, puis j'y ai commencé de même.
Ouais.
J'ai dit, François, j'ai dit, explique-moi ce qui se passe, parce qu'on le sait pas.
C'est
ce qui se passe à Ottawa.
C'est ça.
C'est fou.
Et c'est pour ça qu'en campagne électorale, les campagnes sont super importantes pour nous autres, puis les fameux débats, parce que les gens s'intéressent à ce qui se passe en campagne. Et pendant les quatre ans qu'on est là, c'est pas évident.
Je partirai pas là un grand segment sur le volet, la défense du Québec sur la scène fédérale, mais moi, ce que je me dis, c'est quand vient le temps de défendre des intérêts du Québec, puis qu'ils sont mis dans la balance avec des intérêts de l'Ouest, par exemple, ben je me dis, justement, ils sont en balance avec des intérêts d'un groupe complet qui ont des... Puis c'est correct, je comprends que tout le monde... veuille défendre ses propres intérêts. Mais à un moment donné, on a des intérêts opposés et on se retrouve dans une balance où il faut faire où on fait des choix sur une scène fédérale. Je me dis, crime, si on avait notre pays, nos sièges au Banc des Nations puis tout ça, au siège des Nations.
Ouais, mais là, c'est complètement différent.
Mais attends, moi, la souveraineté. Tantôt, on va parler des dossiers, je vais t'amener sur des dossiers parce que ça m'intéresse beaucoup, là, des dossiers internationaux, mais on serait directement dans
Là, tu parles de la souveraineté. Si la souveraineté se fait, mais elle ne se fera pas à Ottawa.
OK, je comprends ton point.
Elle va se faire à Québec.
Je comprends ton point.
Tu sais, si un jour ça fait.
Ben, je reviens sur ma balance. Quand nos intérêts sont mis dans une balance avec ceux de l'Ouest, par exemple, ben là, je me dis, crime, mais est-ce qu'ils ont vraiment fait le mieux qu'on pouvait aller chercher là-dedans? Comme Québécois.
Ben, tu sais, le Bloc...
Pis c'est rien contre les Canadiens, hein?
Non, mais tu sais, le Bloc, ils soulèvent leurs propres les enjeux qu'ils désirent, mais actuellement, ils sont très, très à gauche quand on regarde. Puis quand c'est là que quand les Québécois pensent que le Bloc défend les intérêts du Québec, oublions pas qu'il y a 30% des Québécois, à peu près 30-32% qui votent pour le Bloc. Il y a quand même 68% des Québécois qui n'ont pas voté Bloc, là. Fait que, quand ça, c'est le discours quand Blanchette puis le Bloc, c'est comme s'il prenait que l'ensemble du Québec, il représente l'ensemble du Québec, alors que deux tiers des gens qui n'ont pas voté pour eux autres, qui ont voté pour les libéraux pour nous autres, ou NPD même. Fait que, il faut faire attention avec ça. Puis deuxièmement, ben, c'est quoi les enjeux qui touchent que le Bloc, il dit, garde, si on n'était pas là, ça serait un drame. Puis comme je disais tantôt, quelques exemples, c'est des choses que les Québécois, en général, quand on leur fait comprendre, OK, le Bloc, là, il a voté pour une loi qui permet au monde d'aller en prison à maison, on a voté, il laisse faire le transfert de Magnotta. C'est pas vrai qu'ils ont défendu les Québécois dans ce temps-là. Tu parles juste du pétrole, sinon ils vont juste parler du pétrole. C'est quoi le point, là? C'est de dire que là, les méchants Albertains, les autres, ils veulent envoyer leur pétrole par pipeline à quelque part, puis que le Québec dit non. 64% du Québec disent qu'ils sont d'accord avec les pipelines. Personne n'en parle de ça. Il y a des sondages qui sont faits, des études. Des gens, il y en a des pipelines qui ont été faits, là. Personne n'est au courant. Mais c'est juste quand c'était le temps d'Énergie-S, que là, ça a fait un scandale parce qu'Énergie-S, ils ont mal expliqué leur affaire. Mais il y a un pipeline entre Lévis et Montréal qui s'est bâti, là. Puis il n'y a personne qui a jamais parlé de ça. Tu sais, à un moment donné, il y a de l'hypocrisie là-dedans aussi. Là.
Tu disais, puis tu sais, comme je te disais, je ne suis pas là pour prendre la parole pour le Bloc. Là. Moi, je ne suis pas un journaliste. Là. Moi, tu sais, je suis podcaster, fait que j'ai le droit de donner mon avis.
Mais la question se pose parce que les gens, c'est ça.
La question se pose, puis je suis content de l'avoir posé, mais ce que je veux dire par là, c'est que je ferai pas tout un débat là-dessus parce que je suis pas là pour représenter le Bloc, puis ça va être intéressant d'entendre Alain Terrien là-dessus la prochaine fois. Alain, quel personnage coloré d'ailleurs. On va avoir du fun. Mais C'est quoi tu disais tantôt sur C5? Tu sais, on est habitué de vous voir les conservateurs sur des déclarations un peu choc.
Mm-hmm.
Hein? Vous adoptez des formules choc qui marquent l'imaginaire. Puis des fois, ça je pense d'ailleurs à ton collègue de la Rive-Sud là, qui finit toutes ses phrases en criant. C'est très coloré puis tout ça. Mais des fois, j'ai l'impression que ça frôle un peu la caricature. C'est comme si ça venait décrédibiliser un petit peu votre position. Comment tu te situes par rapport à cette forme-là de communication?
On a comparé dernièrement avec M. Mulroney l'époque, hein, comment que la politique se faisait, puis des gens comme M. Mulroney, puis tout ça. Puis aujourd'hui, la façon dont on fait de la politique, c'est sûr qu'il y a un changement. Mais il reste que le changement, c'est comme on disait tantôt, les gens ne savent même pas ce qui se passe à Ottawa. À 95%, les nouvelles ne sont pas transmises. Fait que tu sais, on nous accuse des fois d'avoir des slogans, des lignes punch, mais c'est juste pour susciter l'intention, l'intérêt. Mm-hmm. Il faut que les gens... Qu'est-ce qui se passe? Comme le C5, là, quand je parle de C5, blablabla, personne ne veut écouter. Mm-hmm. Si je dis les peines à prison, ils ont des peines Netflix. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une peine Netflix. Ils écoutent mm-hmm. la télé. C'est moi qui
l'ai pensé à celle-là. Encore une fois, t'sais. Très assumé. Là.
Ben oui, mais c'est parce qu'il faut susciter une attention. Puis là, quand les gens disent, c'est quoi, c'est une peine Netflix? Ils restent chez eux au lieu d'aller en prison. Ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Puis le gros bon sens, pas de bon sens.
Ben je trouve que c'est la limite caricaturale.
Ben non, mais c'est que ça... Quand je fais des tables rondes, ma tournée actuellement, puis ça s'appelle la tournée du gros bon sens.
Ouais.
Quand je rencontre les intervenants qui sont des gens de différents organismes, je leur dis, c'est quoi le gros bon sens?
Ouais.
C'est quand vous avez quelque chose que vous dites, moi, on dit que ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là.
Mm-hmm.
Ben, c'est quoi le gros bon sens? C'est la solution qu'on va apporter pour régler ça.
Tu sais que tu lancerais des discussions interminables avec des sociologues, des anthropologues sur la notion de gros bon sens. C'est tellement...
Ben oui, mais dans le langage, dans notre langage là, québécois, quand on dit... Ça, fait que ça, les gens peuvent comprendre ça. À partir du moment que tu as capté l'attention, là, tu peux expliquer davantage. Parce qu'en politique, c'est souvent ça. Quand tu es obligé de commencer à tout expliquer, tu as perdu.
Pierre, serais-tu aussi un spécialiste des communications? Hein? On rajoute-tu que spécialiste des communications à entrepreneur et carrière militaire? Parce
Moi,
que tu as été... Quand même, ton journal, tu
sais. Ah, Prestige, ouais, ben oui.
Tu sais, veux pas, ça a dû t'amener quelques notions en com.
Ah, c'est sûr. Je l'ai opéré moi-même pendant 20 ans, le magazine Prestige, plus d'autres publications aussi dans le monde de l'hôtellerie, à Chéri, même un journal agricole, pour moi qui s'en occupait vraiment. J'étais propriétaire, mais je connaissais rien dans le milieu agricole, mais par contre, ça m'a permis d'en apprendre un peu. Les com, c'est sûr que c'est hyper important quand tu arrives en politique. Parce que
des fois, on a l'impression que c'est juste ça, même, l'instant.
Ben, et puis c'est ça, je disais tantôt, quand tu étudies en sciences politiques, ce côté-là, la relation entre les médias, là, justement, puis les politiciens, ça devrait être quasiment une année complète là, de cours, là, de juste comprendre comment ça se passe, les relations médias et la politique, le monde politique. Parce que ça fait partie de. Comme tantôt, juste avant de m'en venir, j'étais en entrevue, on me demande même pas une demi-heure d'avis, peux-tu donner une réaction sur tel enjeu, tu sais, à Radio-Canada? Bon, là, tu dis OK, il faut que tu analyses l'enjeu rapidement, puis là, c'est quoi notre position là-dessus, puis là, faut que tu le livres, tu livres ça d'une façon intelligente, cohérente. Donc, l'aspect des coms, dépendamment des fonctions, c'est hyper important, mais la relation aussi avec les journalistes, parce qu'il y a beaucoup de communications qui se font en dehors des entrevues, des fois les journalistes peuvent t'appeler, ouais, t'as le sujet, c'est quoi vous pensez de ça, juste pour faire un peu de préparer leur topo, se faire une idée sur l'enjeu. Fait que ça, c'est des relations qui existent. Les gens peuvent se dire, bon, gars, c'est encore tout arrangé d'avance comme la lutte, là. Mais c'est pas ça. C'est plus que il y a des relations, puis les communications, ben chaque partie, on essaie d'avoir des relations avec le monde des médias mm-hmm. aussi, pour qu'à la fin, comme je disais, il faut que la nouvelle se rende au public, puis le plus possible. Puis ça fait partie des choses que moi, je pousse beaucoup, de faire savoir aux gens qu'est-ce qui se passe.
Mais là, tu me fais penser, il y a eu à un moment donné un mouvement un peu stratégique au Parti conservateur de juste une façon de gérer les relations avec les médias. Je dois le dire de même, tu sais de quoi je parle. Donc, vous choisissiez vous étiez très sélectif sur les médias que vous choisissez, avec lesquels vous choisissez de parler. Beaucoup moins d'adresses public. Est-ce que vous en êtes par rapport à cette stratégie-là? Êtes-vous encore?
Ben, premièrement,
je me demande pourquoi. Deuxièmement, où vous en êtes maintenant?
Ben, c'est parce qu'il y a une routine, une espèce de routine à Ottawa. Là. Quand je suis arrivé là en 2015, là, on venait de tomber dans l'opposition. Bon, ben, quand tu es dans l'opposition, c'est que le gouvernement annonce des choses ou une situation, puis là, les journalistes vont demander à tous les partis d'opposition d'aller au micro pour aller faire nos commentaires. Fait que conservateurs, le Bloc, l'NPD. Fait quand tu regardes les nouvelles, là, tu vois les réactions des trois partis. Bon, fait que ça, c'est la routine là, habituelle là, avec notre petite ligne de 8 secondes. Quand Pierre Poilievre est arrivé comme chef, Pierre, lui, ça fait 20 ans là, qu'il est député à Ottawa. Il en a fait des médias. Puis la relation avec les médias anglophones est très différente de la relation qu'on a avec les médias québécois. Moi, depuis que je suis là, je parle à Radcan, TVA, à tout le monde, puis je trouve que la presse...
Tu t'es pas demandé à chaque fois si...
Non, moi
allez-vous j'ai... couper nos budgets?
Non. Puis même, ben, j'ai fait des entrevues à Radio-Canada, à Rimouski, puis on m'a posé la question, j'ai répondu à la même chose que vous, 3-4% de code d'écoute, il mérite de se faire couper. Quelqu'un de Radcan, il me dit, ouais, il faut changer la loi, ben on va changer. on est, je suis pas gêné que ça, mais revenons à la...
L'approche
avec les médias.
La stratégie.
Moi, Pierre Poilievre, lui, c'est sûr qu'il avait une relation avec les médias anglophones qui sont en mode agressif. Fait, quand t'es là, t'as beau être politicien, à un moment donné, tu veux dire un message, passer un message, tu peux répondre à des questions, mais quand c'est agressif, ben, à un moment donné, c'est comme... Fait que là, c'est pour ça qu'il y a eu une coupure à un moment donné. Puis on a dit, regardez, il passe son message dans la Chambre des communes, prenez une clip là.
Ben, venez d'un balado.
Ben,
regarde, vous avez le temps de parler, c'est là. On prendra pas 15 secondes. On va tout laisser ce que tu as dit.
L'agressivité. C'est l'agressivité de certains journalistes, entre autres, puis qui, à un moment donné, il y avait quand même besoin d'une petite pause, là. Puis après ça aussi, ben, de sortir, de juste donner une réaction. Puis à un moment donné, j'ai des journalistes, j'ai dit, gars, si tu veux, je te donne une réponse. On va se parler seul. Pas besoin d'aller dans un scrum. Parce que les scrums, hein, c'est quand il y a plein de journalistes ensemble.
Ouais.
Tout le monde crie, là. Fait qu'à un moment donné, c'est un show, là. Nous autres, t'as une question, je vais te répondre, là. Mais pas pendant qu'ils me la disent, qu'ils me crient après pendant que je te donne une réponse. C'est des façons de faire.
C'est un peu paradoxal quand même par rapport à ce que tu disais, j'ai des tactiques, j'ai des techniques pour percer les communications, mais en même temps, ben, on lui parle moins.
C'est pas aux journalistes à décider pour nous. C'est ça l'affaire.
C'est un peu une façon de redéfinir les relations. Hein.
Ben, c'est parce que les médias se lèvent le matin puis décident que c'est tel enjeu qu'ils vont parler. Puis nous, ben, on a d'autres choses.
Ben, ça, c'est intéressant.
Ben, c'est puis, tu sais, surtout les journalistes québécois à Ottawa, ils n'ont pas une tonne, là. Fait qu'eux autres, là, ils ont un call, puis le matin, ils embarquent sur un sujet. Fait que là, nous autres, le sujet, s'il ne nous intéresse pas parce que c'est pas dans nos priorités, on n'est pas là, ben là, ils veulent qu'on réagisse.
Fait que c'est de reprendre le leadership sur vos coms.
Ben, c'est ça.
Au lieu de vous faire imposer le thème de la journée, vous dites, tant qu'à me faire imposer le thème de la journée, je vais passer mon tour.
Puis nous, ben, c'est de même qu'on s'en va. Puis là, on parle d'économie, d'inflation, puis bang, c'est notre ligne. Puis c'est ça qu'on parle. Puis ils ne parlent pas d'autre chose. Moi, c'est ça qui est important pour les Canadiens et Québécois actuellement. Puis c'est ça que je parle.
Donc, c'est de ne plus se faire imposer.
Ben, c'est de ramener, je pense, qu'il y ait un respect mutuel. Puis de dire,
40 minutes, je suis supposé de bientôt terminer, mais
je parle trop.
Absolument. Écoute, c'est moi aussi, justement. Écoute, j'ai même pas regardé vraiment, mais je scanne un peu l'information. Tout, mais je voulais te parler de la scène internationale parce que j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui s'y connaît. Écoute, t'es sur, je sais pas comment dire, membre de l'Association parlementaire canadienne de l'OTAN.
Ouais, je suis vice-président de l'Association parlementaire canadienne de l'OTAN. Puis j'étais aussi
vice-président, plus ou moins, c'est ça.
Puis j'étais aussi, ça c'est au niveau canadien, qui est la représentation canadienne, puis à l'international, au niveau de l'OTAN. J'ai été aussi 3 ans vice-président du comité de défense-sécurité.
Ça se demande-tu, sans mettre la sécurité nationale en jeu, que tu nous expliques comment ça va finir l'Ukraine? Qu'est-ce qui se passe en Ukraine? Est-ce que le Canada joue un rôle déterminant? Regarde, j'aurais 1 million de questions, mais je pense que tu comprends. Là. Ouais. On s'en va où avec ça?
Ben,
là,
écoute, ça va finir comment? Je peux pas prétendre avoir la réponse à tout ça. De façon... Premièrement, il y a eu un effet de surprise pour tout le monde quand la Russie a décidé de rentrer en Ukraine comme ça. Là, je veux dire... Même les soldats russes n'étaient même pas au courant qu'ils allaient faire une guerre. Ils pensaient qu'ils étaient en entraînement, honnêtement. La réaction de l'Ukraine a surpris la Russie. Comment ça va finir? C'est sûr que les pays de l'OTAN, les États-Unis, là, tout le monde commence à dire là, ça a coûté cher, mais en même temps, on peut pas laisser Poutine gagner.
C'est
dire,
quoi ta position par rapport à ça, toi?
Ben, moi, je pense que l'agression de la Russie est inacceptable. Poutine, je veux dire, t'as beau avoir toutes les raisons dans ta tête que tu voudras, en 2024, là, envahir un pays souverain comme l'Ukraine, ça se fait pas, c'est inacceptable. Puis là, ils sont rendus à des milliers, des dizaines de milliers de morts des deux côtés. Tu sais, je veux dire, t'as pas à te rendre là dans les pays européens. Puis comme la Russie et l'Ukraine. Ça, c'est inacceptable. L'intervention de l'OTAN, quand tu parles de l'OTAN, c'est sûr que là, les pays de l'OTAN ont fourni des équipements, de la munition, tout ce que tu voudras pour aider l'Ukraine. Mais d'intervenir sur le terrain comme la France, dernièrement, Macron a commencé à vouloir envoyer des soldats. Ça, c'est sûr et certain que là.
Il était sérieux. Il
avait l'air c'est sûr qu'il y a des jeux politiques.
Ça avait l'air d'un certain bluff, là.
Parce que souvenons-nous, au début, quand ça a commencé, là, t'avais la menace nucléaire, parce qu'on a dit, la Russie a l'arme nucléaire. Fait que là, si l'OTAN embarque là-dedans, Poutine menace.
Mais en fait, c'est le monde normal, là. Moi, là, dans le fond, c'est ça que j'ai peur.
C'est sûr et certain.
Moi, j'ai 51 ans. Dans les années 80, je me souviens que j'ai eu peur à la guerre, à la guerre atomique. Là, ça m'avait complètement sorti de l'esprit. Puis un matin, il y a 2 ans, je tenais mes toilettes, puis je regardais les nouvelles en me disant, y a-tu une bombe qui a explosé? Je revenais pas. Ouais. Que je sois rendu là, non, encore.
Puis, tu sais, écoute, quand j'étais vice-président de la Commission de défense et sécurité, puis dans les rencontres de l'OTAN que j'avais régulièrement en Europe, les Européens, on parle de 2016, 17, 18, dans ces années-là, là, il y a 5-6 ans, là. Puis là, les Européens étaient très nerveux avec la Russie. Puis là, nous autres, on était là. Ben, voyons donc. Là, on avait plus la Corée du Nord, puis la Chine, mais les Russes. Les pays d'Europe, ils demandaient aux Américains vraiment de renforcer la frontière, puis de mettre des capacités. Puis là, ben, avec l'invasion de l'Ukraine, on a dit, oh, finalement, il n'y avait pas tort. Les Russes menaçaient vraiment, puis on ne s'attendait jamais à une forme d'invasion militaire conventionnelle, dans le fond, parce que ça, on pensait que ça n'existerait plus, là, de déployer des tanks, puis de commencer à rouler sur le territoire. Mais comment ça va finir?
C'est surtout des grands territoires de main.
La question, je pense qu'il n'y a pas 42 options, malheureusement. C'est soit si les Russes décident que finalement, ce qu'ils ont conquis comme terrain, ça c'est, puis que l'Ukraine sera obligée de dire on abandonne cette partie-là, puis on négocie. Parce qu'un retrait complet de la Russie avec Poutine, tant aussi longtemps qu'il va être capable, puis il est aidé par la Chine, il est aidé par d'autres pays, il y a des capacités, puis la Russie...
C'est vrai qu'ils n'ont pas de fonds.
Non, puis à un moment donné, il y a eu des sanctions économiques, tout ça, mais ça n'a rien changé, puis la Russie, ils ont des capacités, là, ils ont des usines qui roulent à fond, ça sort de la munition, des véhicules, fait qu'ils sont en mode guerre. Fait que là, eux autres, aidés, comme je te dis, par la Chine, puis qu'ils peuvent avoir
des fonds. On peut-tu parler d'économie de guerre dans ce contexte-là?
Ben, sûrement, oui, parce qu'ils sont là-dedans, là. Puis nous autres, non. Puis le Canada, tu demandais le Canada tantôt. Écoute, le Canada, on a vidé les restants qu'on avait dans le fond de nos garde-robes de lance-roquettes, des Carl Gustav. On a envoyé 4 chars Léopard. Sur les 88 que le Canada a, il y en a à peu près 40 qui roulent. Bien 40, il y en avait 4 qui pouvaient aller à la guerre parce que les autres sont pas capables de faire la guerre.
Ça fait dur, là. On a vu une nouvelle dernièrement qui disait que, justement, qui parlait de l'état actuel, l'état opérationnel de l'armée, je vois ton découragement. C'est vrai, ça?
Oui.
On est pas prêt.
C'est une catastrophe. La moitié de l'équipement des forces canadiennes est désuète ou non opérationnel. Il y a même, malheureusement...
Qu'on paye pour entretenir des affaires qui marchent pas, là.
Ben, où on paye pas, mais on a même des flottes. Okay, on a même des flottes de véhicules. Les flottes de véhicules pas. Qui sont presque neufs, OK, puis qui sont à moitié brisées parce qu'ils ont été faites, moi, je dis en peau de fesse, là. C'est que la tôle est trop fragile.
Okay.
Ça, c'est un autre problème qu'au Canada, on a toute la notion d'acquisition d'équipement de défense. On paye des fortunes pour des équipements qui sont pas efficaces. On paye trop cher. On se compare à d'autres
pays. Pourquoi? Parce qu'on achète du local, c'est quoi?
La façon de faire l'approvisionnement. Puis c'est sûr qu'il y a des obligations d'acheter local. Puis c'est correct d'investir localement, mais c'est pas une raison de payer 2 fois plus cher. Fait que il y a beaucoup de réformes à faire là-dedans.
Si je pense à ça, là, mais mettons que Pierre Poilievre prenait le pouvoir en second, la prochaine élection, excuse-moi.
Maximum octobre 2025.
Ouais, tu le sais, hein? C'est bientôt, ça marche. Mettons que vous prenez le pouvoir, est-ce que Pierre Poilievre est ministre de la Défense?
ça apporte toutes ces questions-là, comme vous savez, ça c'est le genre de réponse que je peux rien dire. C'est le chef qui décide. Ah, ben oui,
Prérogative. Prérogative, merci. Mais je vais aller finir mon secondaire 3, j'en reviens. Excuse-moi, je pars de toutes les bords, mais je la trouve intéressante, cette question-là. Tu es aussi sur le comité spécial des relations sino-canadiennes. Puis ça, je te dirais que c'est un autre dossier qui me fait peur, comme païen dans son sous-sol. Je regarde un peu les relations se détériorer entre la Chine puis l'Occident. Puis je me dis, ça aussi, je me demande comment ça va finir.
La Chine, là, c'est une bébête. C'est une bébête spécial hein, à gérer parce que c'est complexe. Parce que t'as l'aspect économique. L'aspect économique, les relations économiques Canada-Chine sont hyper importantes des deux côtés. Les Chinois exportent énormément. Nous, on exporte aussi, on pense au bœuf, on a des soya, il y a différentes choses qui sont faites. La culture canadienne qui est exportée en Chine, que ça a des impacts majeurs si on arrête nos relations. Fait que ça, t'as le côté économique qui est là, mais le côté qui est le plus problématique et dangereux, c'est l'ingérence. Comme là, actuellement, il y a une commission à Ottawa qui fait l'évaluation de l'ingérence politique. Nous, là, on sait qu'en 2019, on a perdu 7 comtés parce que les Chinois sont impliqués dans les élections avec la communauté chinoise qui sont menacées par la Chine directement sur le territoire canadien. On sait qu'il y a des opérateurs ici.
Pour les Chinois, ça serait... ça serait dans leur intérêt de ne pas avoir un gouvernement conservateur.
C'était la commande qui a été passée. Ils ne voulaient pas avoir un gouvernement conservateur, puis ils ont fait, puis c'est pour ça que la commission, et j'espère qu'il y aura des résultats de cette commission-là qui seront intéressants, parce que les rapports sont secrets, la juge a accès, mais bon, on le sait, puis on a même les postes de police chinois qu'il y a eu à Montréal, Brossard, puis ailleurs au Canada.
C'est bizarre ça que ça n'ait pas fait plus de bruit que ça. Moi, ça me semble absolument inacceptable.
Ça en a fait, mais pas assez, puis ça existe encore, la GRC est encore en train de faire leur enquête là-dessus, puis quand on appelle ça poste de police, c'est comme des centres communautaires, mais en arrière, dans la petite salle en arrière, il y a quelqu'un qui est là, il ferme la porte, là, puis il prend la personne d'origine chinoise qui vit à Brossard, là, puis il dit là, tu vas t'organiser pour m'avoir telle information, sinon, ton père ou ta mère qui est en Chine, là, on s'en occupe, là. C'est carrément ça qui se passe. Ça, c'est sur le territoire canadien, puis dans les universités, les universités canadiennes, il y a de l'ingérence sur les campus. Après ça, tout l'espionnage industriel, il y en a tout le temps eu. Mais là, à un moment donné, il y avait Huawei qui était dans le décor, qui était carrément là, en train de s'implanter partout, mettre des systèmes de communication au Canada.
La 5G.
Donner de l'argent aux universités pour être capable de travailler sur la recherche universitaire. Tout voler notre information. On a le laboratoire de Winnipeg, on en parle de plus en plus. Je sais pas si j'ai suivi ça. Laboratoire de microbiologie qui est un niveau 4, c'est le top niveau. C'est là qu'il y a les pires virus, l'Ebola, puis ces virus-là sont manipulés. Puis il y avait deux chercheurs chinois qui travaillaient là, puis qui ont volé l'information, qui ont envoyé par la poste le 31 mars 2019 par un vol d'Air Canada partant de Toronto jusqu'à Beijing. Là. Il y a des virus qui ont été envoyés avec toute l'information a été transmise aux
Attends,
Chinois.
Il y a des virus qui ont voyagé?
Absolument. Ben, j'avais même sur mon bureau le numéro de vol d'Air Canada, là, parce que c'est des packages ça se fait de façon normale. Là. Des fois, il y a des transferts d'informations, mais dans un avion, à un moment donné, il y avait des virus comme Ebola, tout ça. Mais d'autres virus qu'on ne connaît pas tous les détails parce que le gouvernement nous le cache. Mais on sait que ces personnes-là ont transmis la propriété intellectuelle puis des virus à Wuhan, le même laboratoire où il y a eu le problème de la COVID-19. Là. Ça s'est envoyé à ce laboratoire-là. Puis là, ça, on le savait. On a eu des comités, justement, le comité Canada-Chine. On a fait plein de rencontres, de demandes. Puis le gouvernement libéral de Trudeau a toujours caché. Puis là, il y a 2 semaines, on a reçu 300 pages de documents qui donnent les détails. Puis même encore là-dedans, il y a beaucoup d'informations de cachées. Bon, on en a su plus. Puis ça a confirmé ce que je viens de dire là, qu'on le savait, mais c'était pas confirmé officiellement. Là, on l'a su. Fait que ça en passe de la Chine, là. Puis pensons juste au Nord, on parlait de défense nationale, l'Arctique, le passage de l'Arctique, vu que la fonte des glaces, puis tout ça, les Russes et les Chinois sont là, puis les Russes, ils ont 14 bases militaires sur le bord de l'Arctique. Les Chinois, eux autres, sont en train de faire des brise-glaces nucléaires qui vont pouvoir traverser à travers tout ça. Puis là, nous autres, là, on n'est même pas capable d'envoyer nos brise-glaces, nos frégates.
Mettons, si la volonté était là de relever la barre, est-ce qu'on serait capable, on va-tu être capable de le faire ou on a pris trop de retard, on a-tu les moyens, en termes de ressources financières?
C'est les énormes défis qu'on a, puis les priorités qu'on a à mettre, c'est ça. Là. Quand tu arrives, tu dis changement de gouvernement, il faut Justin Trudeau qui a doublé notre dette, là, puis que ça a donné quoi, ici, là, le double la dette du pays? Là, pas rien, hein, parce que il y a eu tellement de dépenses, tellement de milliards qui ont été brûlés, que personne, dans le fond, ça donne à rien dans la vie de tous les jours. Ça c'est un enjeu que là, faut reviser tout ça rapidement, enlever les financements à des organisations qui n'ont pas d'affaires à avoir de l'argent. Même on parle d'aide internationale, on veut aider l'international, mais actuellement, il y a de l'argent donné à des pays avec des dictateurs, puis cet argent-là, elle va pas pour aider les citoyens et les gens qui en ont besoin. Elle va dans les poches des gens qui se bâtissent des châteaux. Il y en a de l'argent comme ça à récupérer et reprendre le contrôle de notre pays. Puis le contrôle de notre pays, ben, c'est de contrôler nos frontières, contrôler notre environnement, empêcher l'ingérence étrangère, contrôler les eaux. Oui, ça prend de l'argent, mais c'est ça. Faut prendre notre
priorité. J'en ferai encore une demi-heure. Il faut que j'arrête. Parce que là, tu viens de dire des affaires qui m'intéressent. J'aurais aimé t'entendre sur la demande du Québec pour le contrôle de son immigration. Mm-hmm. Rapidement.
Ben, moi, côté immigration, là, premièrement, il y a un accord Canada-Québec. Et je suis absolument d'accord que le Québec puisse identifier des...
100%, t'es-tu d'accord?
Le contrôle à 100% comme il était demandé, c'est parce qu'on peut pas le faire parce que c'est des relations pays à pays. Puis moi, comme député dans mon bureau,
t'aurais donné des arguments aux souverainistes?
Non, ben oui, mais c'est sûr que c'est une souveraineté, tu vas pouvoir le faire. Mais là, on est dans un pays. Mm-hmm. Puis toutes les relations avec les ambassades à travers le monde, des différents pays, tu peux pas avoir le Québec qui le ferait tout seul. Là. Ça marcherait pas.
Non, ouais, je comprends que ça.
Mais pour le reste, pour dire que si le gouvernement du Québec dit j'ai besoin de tant d'immigrants économiques, réunification familiale, puis des demandeurs d'asile ou des réfugiés, parce que c'est différent, là, les mm-hmm. réfugiés qui sont admis, il y a une capacité d'accueil. Puis ça, la capacité d'accueil que François Legault a mentionné, je donne raison là-dessus, parce qu'on vit le problème au niveau national, fédéral, là, partout au Canada.
Ouais.
Il y a tellement de monde qui ont rentré là, demandeurs d'asile. Ils ont une perte de contrôle au niveau canadien, puis il n'y a pas de place. Là. Fait que là, on se ramasse avec des gens qui sont ici, puis là, sont en rue. Là. Ils n'ont pas de place à se loger, parce que...
On n'a pas ce qu'il faut pour accueillir les gens.
Ben, nous autres, on a de la misère à trouver du logement, puis ça coûte trop cher. Fait que t'as des immigrants qui arrivent, puis que là, ils pensaient que c'était le rêve canadien, puis finalement, ils sont dans la misère. Là. Puis il y a des situations à Toronto, Vancouver, là, c'est assez épouvantable ce qui se passe là.
Merci beaucoup, Pierre, d'avoir accepté notre invitation. C'était fascinant. Comme je te dis, je reprendrai encore une demi-heure. Je pense que je vais avoir plus d'invités sur la scène fédérale.
Ben, écoute, il y a énormément de sujets, puis ça... C'est un bon point. Ce qui se passe au fédéral, il faudrait que les Québécois, les citoyens soient plus informés parce qu'il y a beaucoup d'impact sur la vie des gens. On le sent pas parce qu'on est tellement concentré sur la politique du Québec. Là. Mais quand on regarde plus large... là,
ben moi, je serais pour de pouvoir me concentrer sur la politique d'un pays. Écoute, ben encore une fois, merci.
Merci, Denis.
C'était fascinant. Merci beaucoup à vous aussi d'avoir à la maison d'avoir été à l'écoute. Je numérote les entrevues depuis un mois. C'était notre 109e entrevue aux engagés publics. Vous savez où vous écoutez les 108 autres. Vous allez sur YouTube, sur Facebook. On est diffusé aussi, on est distribué sur Cube Radio. On est aussi à la télé de Cube Télé le samedi à 8h et le dimanche à 15h en rotation pendant le week-end. Fait que vous aurez l'occasion de nous voir sur votre poste de télé. Sinon, à l'audio, c'est Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Donc, on est sur toutes les plateformes. Vous allez nous trouver aisément. C'est Denis Martel qui est au micro. Encore une fois, Pierre Paulus, merci beaucoup de t'être venu nous voir. Puis, on se dit à la prochaine.